quand même, il faut que vous sachiez que Lamaze était un obstétricien, accoucheur, dans les années 50 à peu près, quoi, même avant d'ailleurs. Et c'est celui qui est allé en Union soviétique à l'époque pour apprendre l'accouchement sans douleur.
Ah oui.
Qui est revenu en France avec cette méthode-là, et il est venu à Saint-Denis. Et donc, la maternité de Saint-Denis a été une des deux maternités en France qui a mis en place l'accouchement sans douleur. Et ce monsieur ne bénéficiait que de deux contre-allées sans jamais personne qui habitait là-dedans. Donc on a trouvé que c'était assez inhumain et injuste. Et donc on a baptisé, nous, le Carrefour, Lamaze. C'est nous qui l'avons baptisé. Il n'avait pas de nom. Des gens sont venus à cette réunion, donc une de cette réunion qui présentait le poste aux habitants. Et ils ont dit, et pour notre quartier, il y a quoi? Alors nous, notre quartier, c'est les quartiers nord-est de Saint-Denis, pour faire grand, hein. Et l'élu en charge de l'urbanisme de l'époque leur a répondu, ah ben, chez vous, on a rien de prévu dans les 20 ans à venir. Ce qui les a pas mal fâchés. Mais les quartiers nord-est de Saint-Denis, il n'y avait strictement rien. En fait, il y avait un projet, c'est la rénovation de l'ANRU sur toute une grosse cité qui s'appelle la cité Saint-Rémy, mais à part ça, il n'y avait rien. On s'est retrouvés en novembre 2009 et on a dit que ce n'était pas possible de laisser les choses sans aucun projet dans notre quartier. En janvier 2010, on a créé le collectif Lamaze. Et puis on a décidé de commencer par explorer un petit peu notre quartier pour voir un peu de quoi on aurait en fait besoin. L'enfouissement de la haine n'était absolument pas dans nos idées à l'époque. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était une sacrée barrière qu'il fallait franchir. Donc on a fait des balades, on a exploré. Et puis à un moment donné, on s'est dit « Waouh, mais ce viaduc d'autoroute nous empoisonne la vie, c'est lui qui nous coupe de tout ». On a des rues à Saint-Denis qui sont coupées par l'autoroute. Mmh. Et donc, on a la rue d'un côté, les je ne sais combien de mètres d'autoroute, et de l'autre côté, la même rue. Et des gens qui étaient voisins avant, riverains, se fréquentent plus, quoi. Il n'y a plus de raison. Et on avait un copain qui disait, il n'y est plus maintenant, qui disait, il faut enterrer l'autoroute. Enfin, bon, on avait des termes comme ça qui étaient très forts. Et puis, à un moment donné, bon, on s'est dit que c'était ça qui nous... c'était tellement évident, ça nous cachait la vue et on s'est dit qu'il fallait s'occuper déjà de cette question-là. Dès le début, on a eu deux axes. Un, beaucoup de démarches institutionnelles, rencontrer les élus, les services, tout ça. Et deux, mobiliser les habitants. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le premier axe, rencontre avec les... faire du lobbying en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Mais bon, il faut dire que d'emblée, on a rencontré une incrédulité plus que totale et complète des élus. C'était inimaginable qu'on envisage de faire des choses aussi importantes que ça. Alors, on a eu un allié immédiat qui était l'hôpital public, parce que cet hôpital, je ne sais pas si vous voyez, vous l'avez repéré un peu, il a une entrée qui n'est pas accessible. Donc on est allé voir la directrice de l'hôpital de l'époque, qui était une dame qui a vraiment compris l'intérêt qu'elle avait à s'allier avec nous. Et on a porté pas mal de choses ensemble, on l'a vu plusieurs fois, tout ça. Elle avait l'oreille de la municipalité, donc on s'est comme ça un petit peu soutenu les uns les autres. Et les habitants, ça a toujours été notre point faible. Et ça reste toujours notre point faible. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui des gens qui ne savent pas trop qu'il y a des gens qui voudraient bien supprimer l'autoroute, ses nuisances, etc.
Puis, si on a regroupé quelques participants de la partie ouest, on va dire, de l'autoroute, ben, les gens qui habitent à l'est de l'autoroute, on n'a jamais réussi à les solliciter. Ils ne se sentent pas concernés par Saint-Denis. Et ils sont tellement coupés de Saint-Denis que ben ils voient pas pourquoi ils viendraient.
La cité des cosmonautes.
Ils voient pas pourquoi ils viendraient discuter avec des gens de l'autre côté de la barrière.
Et ils vivent avec deux nuisances majeures invisibles, donc le bruit et la pollution. Donc c'est extrêmement difficile de les mobiliser. Pourquoi Pleyel s'est pas mobilisé avant? Parce que voilà, eux aussi ils avaient une énorme autoroute qui leur passait sous le nez, mais ça s'arrêtait là. Maintenant qu'il y a un projet concret qui va carrément amplifier complètement les problèmes qu'ils ont, attaquer la santé des enfants, du groupe scolaire, etc., alors là ils se mobilisent parce qu'il y a un gros danger. Nous, on n'a pas de danger. Nous, on veut partir d'une situation qui existe depuis 40 ans. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. En fait, il a fallu qu'on monte des dossiers, qu'on cherche des arguments qui, au début, étaient assez basiques, quand même, on peut le dire, et qui sont devenus beaucoup plus musclés quand Georges est arrivé, entre guillemets. C'est pas une nouvelle étape, mais quand même, si, parce que c'était quelqu'un qui, à la fois, avait sûrement des outils pour comprendre un peu ce qui se passait, et qui avait du temps aussi. À l'époque,
à ce moment-là, oui.
Voilà, et donc qui s'est mis à chercher plein de choses et qui nous a ramené beaucoup de choses hyper intéressantes, qui a fait fuir entre autres un copain architecte qui s'est senti détrôné immédiatement par ce nouvel arrivant. On a développé les compétences citoyennes qu'on avait les uns les autres. Alors les miennes, c'était tout mon réseau relationnel, mine de rien, qui était quand même important. Et puis, Georges, c'était tout son réseau technique. Et puis, notre petite force, je crois qu'à la longue, ils se sont rendus compte qu'on ne lâcherait pas de toute façon. Et donc, il a bien fallu qu'il fasse avec nous.
Alors après, sur l'expertise pour les solutions, je me suis formé, en gros, sur Internet, en allant explorer des expériences japonaises, norvégiennes, etc., etc. Puis, en regardant les données de santé, on voit bien que quand on absorbe 15 mètres cubes d'air par jour et qu'elle contient un certain nombre de milligrammes de pollution, ça fait pas de bien, quoi. Moi, j'ai un background, j'ai travaillé sur différents polluants. J'ai une formation agricole à l'époque où on formait sur plein de choses. J'ai travaillé aussi dans ma carrière sur la génération d'énergie à partir de... J'ai fait de la méthanisation, par exemple.
Moi, j'ai rien à voir. Moi, je suis psychologue scolaire, donc absolument rien à voir. Moi, mon truc, c'est de rassembler les gens, en fait.
On a déjà défini à ce moment-là quelles étaient nos 4 nuisances prioritaires à éliminer. Donc, un, on a la fracture urbaine. On a quelques photos, on a des rues qui sont coupées en deux. Deux, on a plein de voitures qui circulent dans les rues parce qu'il n'y a pas de liaison, il n'y a pas d'échangeur direct avec l'autoroute.
Elle traverse la ville.
Trois, on a plein de pollution atmosphérique. Et quatre, on a plein de pollution sonore. Et en travaillant sur ces 4 objectifs-là, en disant, voilà, il nous faut l'éradication de ces 4 nuisances-là, en même temps. Donc nous, on a une solution à vous proposer, qui est l'enfouissement et le retraitement des déchets. Maintenant, vous êtes libre de nous proposer d'autres choses. Au départ, il fallait argumenter sur le fait que on a des niveaux sonores qui ne sont pas admissibles. Il fallait argumenter sur le fait que respirer X milligrammes de particules dans l'air, etc., c'est dangereux pour la santé, etc. Il fallait démontrer les choses. Et aujourd'hui, on est dans une situation où cette pollution, cette fracture, etc., c'est tout à fait admis. Donc on passe déjà sur la partie suivante, qui est dire, on travaille sur la solution. On laisse le trafic automobile en place, en quelque sorte. Et là-dessus, on est en divergence par rapport aux autres solutions qui sont la plupart du temps envisagées. Voilà, donc on a combiné les deux parce que localement, on a la possibilité de le faire.
Voilà, donc comme le disait Georges tout à l'heure, nous on a dit on pense à l'enfouissement, mais s'il y a des études de fait qui montrent autre chose, on n'est pas fermé, on veut bien. Aucune étude n'a été menée à terme là-dessus. Aujourd'hui, on attend les résultats. J'ai quelques échos. À mon avis, ce ne sera pas exactement ce qu'on veut. Donc, on attend de voir.
Aujourd'hui, on a donc les études internationales sont un peu manipulées et on va vers une solution qui est Paris sans voiture. Moi, je veux bien, mais il faudrait qu'on me dise comment. Parce que Paris sans voiture, mais dans le même temps, on augmente la fréquentation de Roissy de 40 millions de personnes. On augmente la population dans tous les quartiers nord de l'Île-de-France. On supprime des liaisons ferroviaires sur la SNCF dans le nord de la France, etc. Enfin bon, je veux bien, mais ça ne prend pas la direction de Paris sans voiture.
Et on a demandé également,
aux professionnels de santé de nous sortir des chiffres là-dessus, ben, la réponse que l'on a eue, c'est ben, on a pas de mandat pour collationner les études dans ce sens-là. On sait que, oui, vous avez raison, il y a de l'asthme qui est lié à la présence de l'autoroute, mais on ne sait pas le comptabiliser.
À qui vous avez demandé ?
À l'Agence régionale de santé.
Santé, ARS.
Et puis en 2014, après les élections, il y a un groupe, un sous-groupe de la majorité municipale qui a souhaité porter notre projet. Donc il y a eu au conseil municipal le soutien de l'enfouissement de l'autoroute 1. Ça c'était déjà un peu plus loin. C'est le début de l'alliance avec des élus.
C'est quel groupe ?
Alors il s'appelait Rêve à l'époque, Rouge et Vert ensemble pour Saint-Denis, un truc comme ça. Maintenant, il s'appelle Rouge et Vert Insoumis. Et donc, ces gens, alors, il faut savoir quand même que l'ancien maire nous avait invités
à faire une présentation.
Faire une présentation en conseil municipal de nos propositions. Ça, c'était en 2012, peut-être,
oui.
Quelque chose comme ça.
La première, oui, c'est en 2012.
Voilà. Évidemment, cette démonstration magnifique, tous les élus étaient très favorables à tout ce qu'on proposait, il n'y avait aucun problème. Voilà, ça, pas forcément été suivi des faits, mais bon.
On a fait une nouvelle présentation en 2018, où là on a présenté une version, je dirais, amendée de notre projet, qui met en avant, disons, toute la partie traitement des effluents avec le recyclage du gaz carbonique en méthane, le recyclage des dioxydes d'azote en produits azotés, l'agglomération des microparticules en briques de matériaux précieux, etc. Donc ça, c'est dire, bon, ben voilà, il y a des solutions, il faut qu'on y aille, etc.
Donc on a commencé par la ville de Saint-Denis, où là, ça a été plus que archi dubitatif. Et puis, pleine commune, ça a été pareil, une écoute extrêmement correcte,
polie.
Polie, voilà, très très polie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, on va dire peut-être maintenant, c'est que l'écoute polie n'a pas débouché sur grand-chose. C'est-à-dire qu'on a eu des promesses qui n'ont jamais été menées à terme. Voilà, on sent bien qu'il n'y a pas eu la volonté, on leur a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas eu la volonté politique de porter ça très fort. Le président de Pleineco, par exemple, alors le c'est président de Pleine Commune, c'est Patrick Braouazet, qui était maire de Saint-Denis quand le Stade de France est arrivé pour les JO 98. On lui a dit, il faut une opportunité. En 98, c'était l'arrivée du Stade de France. En 2024, ça sera les JO et nous, on veut l'enfouissement de l'autoroute 1 pour cette échéance-là. Bon, il a été flou dans ses réponses et puis un beau jour, il nous a dit, c'est pas possible.
Oui. Bon, et puis on n'était pas dans la meilleure situation pour peser non plus à cette période-là. Le comité Porte de Paris, à ce moment-là, avait un président qui avait une position un peu ambiguë, on va dire. Voilà. Bon, ce qui a fait que l'on n'a pas pesé, on n'a pas été présent autant qu'il le fallait à ce moment-là.
Et à la dernière, donc, en 2017... Patrick Braouazec a dit c'est absolument irréalisable et irréaliste d'ailleurs d'imaginer l'enfouissement pour les JO 2024, mais je m'engage à ce que toutes les études et tous les financements soient réalisés juste avant les JO et qu'on démarre les travaux le lendemain des JO sur l'enfouissement. Bon, c'était génial. Sauf que il se passe rien au niveau de l'interpellation en direction de l'État. C'est l'État qui doit faire quelque chose. C'est l'État qui nous doit réparation. C'est ce que nous on a toujours dit. Il semblerait qu'on aille vers un boulevard urbain, évidemment. Donc pas d'enfouissement. Alors il y a un truc qu'on vous a pas dit quand même, c'est qu'on a essayé d'élargir par contre sur les villes environnantes, sur les habitants et sur les élus. Sur les élus, on a fait le maire de Stein et le maire de La Courneuve, qui sont les deux villes qui sont concernées par l'autoroute 1. On a essayé de contacter des habitants de La Courneuve. Alors c'est un peu comme pour Pleyel. Ils ne sont pas organisés, les gens.
La suite,
on vous le dira la prochaine fois.
Oui, c'est d'obtenir ce qu'a dit le président de Pleine Commune, c'est-à-dire la mise en ordre pour décider en 2020-2021, tel que nous l'avons dû... Patrick Braouazec, c'est décision 2021 pour action, pour les bulldozers, dès que les athlètes seront rentrés chez eux.
Dès que les JOP, les P, sont partis. Bon, on n'y croit pas. Hein. Enfin, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il va falloir qu'on se bouge un peu plus qu'on ne le fait maintenant. On a une AG bientôt, au mois de juin, le mois prochain, comité pour l'enfouissement. Et je trouve que la mobilisation de Pleyel, des gens de Pleyel, est quelque chose qui va nous aider, parce que nous, on essaye de les aider, eux aussi. Hein. On les soutient, on les comprend, on vient en réunion avec eux, etc. Pour moi, l'enjeu, c'est comment aujourd'hui on va peser assez fort pour que les gens arrivent à empêcher la réalisation de projets qui sont conformes à leurs intérêts à eux.
C'est-à-dire que l'une des actions qui serait potentiellement envisageable, c'est le blocage de l'autoroute. On la bouge pendant un certain nombre de jours puisqu'ils veulent en plus la fermer, le transformer en boulevard urbain. Voilà, faire la démonstration de ce que ça donne. Voilà, on laisse passer 50 000 véhicules par jour et puis voilà.
Il va falloir que là, on se trouve des choses un peu nouvelles, quoi, très spectaculaires. Moi, je suis complètement d'accord, mais on ne sait pas faire. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais après, il faut quand même les forces pour faire ça. Hein. Ouais.